Europe 1. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Aujourd'hui, je vous dresse le portrait d'un personnage ambivalent, le neurologue Jean-Martin Charcot. Ses recherches consacrées à l'hystérie ont contribué à l'évolution de la neurologie et de la psychiatrie au XIXe siècle. Mais cet homme ambitieux et ombrageux est aussi critiqué pour son rapport très particulier à ses patientes qu'il exhibait pendant ses cours. Cobaye ou complice ? C'est son histoire passionnante et pleine de rebondissements que je vais vous raconter dans un récit en deux parties. Charcot et la révolution de l'hystérie. Épisode 1. Le roi de la salpêtrière. Nous sommes à l'hôpital parisien de la Salpêtrière, un mardi de l'année 1877. L'amphithéâtre du docteur Jean-Martin Charcot est noir de monde. Sur les bancs qui plongent vers l'estrade centrale, il n'y a que des hommes en costume sombre. Jeunes médecins, journalistes, dessinateurs, écrivains. Ils sont tous venus assister à la leçon du grand Charcot sur l'hystérie. Le professeur est un homme aux cheveux gris coiffés en arrière, aux joues rondes et tombantes autour d'un nez aquilin. Il a quelque chose d'un oiseau de proie nocturne. Il parle peu, mais son charisme naturel force le respect. Escortée par les assistants du maître, une jeune fille de 15 ans entre dans l'amphithéâtre. Augustine a encore un visage poupin et des formes déjà opulentes que l'on aperçoit sous sa chemise blanche et son corset. Elle est entre la femme et l'enfant. Charcot l'hypnotise en pressant ses paupières de ses doigts. En quelques secondes, Augustine sombre dans une crise hystérique que le médecin décrit froidement à son auditoire. Le corps de l'adolescente est pris de spasmes et se contorsionne au sol. L'assistance est troublée par la dimension érotique de la scène quand Augustine se met à parler de son amant imaginaire. Charcot a subjugué son auditoire. Demain, tout Paris ne parlera que de lui. Jean-Martin Charcot est né à Paris le 29 novembre 1825 dans le Faubourg Poissonnière où vivent ses parents. Son père est artisan sellier. Il fabrique des harnachements pour les voitures à cheval dans l'entreprise de son beau-père. La famille appartient à la petite bourgeoisie qui travaille de ses mains. Aux côtés de son père, Jean-Martin apprend le dessin. Il observe et reproduit ce qu'il voit. Bride, selle, musculature des chevaux. Ce qu'il aime, c'est l'équilibre. Pas la fantaisie ou les fioritures inutiles. Il fréquente le collège Bourbon puis le lycée Saint-Louis. C'est un bon élève sans être un premier de la classe. Il obtient son baccalauréat en 1843 en se spécialisant dans les lettres. Jean-Martin a un tempérament artistique. Il dessine beaucoup et songe aux beaux-arts. Mais il aime aussi les sciences. Et comme son cœur balance, il se réinscrit au lycée pour passer un second baccalauréat en sciences. Après l'obtention de ce diplôme, son choix est fait. Il s'inscrit en faculté de médecine. En 1846, il commence son externat et découvre les hôpitaux parisiens, Necker, La Charité et Saint-Louis. La médecine est en train de se moderniser sous ses yeux. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les hôpitaux étaient majoritairement tenus par des ordres religieux hospitaliers. Il s'agissait alors de mouroirs pour les indigents ou de lieux de claustration pour les porteurs de maladies infectieuses. Ceux considérés comme fous restaient généralement à la charge de leur famille. Les personnes en proie à de grandes crises de démence étaient considérées comme possédées. Quand la situation devenait hors de contrôle, leurs proches appelaient l'exorciste à leur chevet. Les premiers asiles d'aliénés apparaissent pendant la Révolution française. Les démons sont enfermés, attachés dans les bas-fonds des rares hôpitaux, et parfois, les rats dévorent même leurs extrémités, faute de soins. Les aliénés des hôpitaux sont souvent âgés et pauvres. Personne ne demande de dédommagement pour les mauvais soins infligés à ces marginaux dont la société ne sait que faire. « En 1793, l'aliéniste Philippe Pinel, spécialisé dans le traitement des maladies mentales, s'associe à Jean-Baptiste Pussin, un surveillant d'asile. Ensemble, ils commencent à dresser les signes cliniques des pathologies mentales pour établir des diagnostics. Ces pionniers de la psychiatrie agissent ainsi car ils ont pris leur distance avec le poids de la religion. Ils voient des malades là où avant, on ne voyait que l'intervention du diable. En parallèle, les médecins du début du 19e siècle commencent à mettre en place des méthodes scientifiques pour guérir les maladies. Ils pressentent l'importance de l'hygiène avant même les découvertes des microbes par Pasteur. Ils étudient les symptômes, classent les maladies et dissèquent les corps pour en comprendre le fonctionnement. Jean-Martin Charcot est formé à la médecine dans ce siècle de renouveau où tout est à inventer. En 1851, il a 26 ans et il se choisit comme mentor Pierre Rayer, un dermatologue et anatomopathologiste, c'est-à-dire spécialiste de l'expression des maladies dans les tissus cellulaires. Rayer est l'un des pontes de son époque, libéral, libre penseur, bien implanté dans la société parisienne. Auprès de son maître, Charcot se forme à la médecine clinique. Cette démarche, qui consiste à analyser les symptômes pour identifier des maladies, est novatrice. À l'hôpital de la Charité, Charcot travaille pour la première fois avec des hystériques sous la férule du docteur Pierre Briquet. Le chef de service prend régulièrement la défense de ces femmes qui ne devraient pas avoir honte de leur état. Si Briquet commence à sortir de la perception classique de l'hystérie, il est encore loin d'avoir coupé les ponts avec les origines historiques de cette maladie connue depuis Hippocrate, le plus célèbre médecin de l'Antiquité grecque. Il y a 2000 ans, l'hystérie était considérée comme une maladie féminine liée à l'utérus. Cet organe, mécontent de ne pas remplir son office, c'est-à-dire d'avoir un enfant, se déplacerait dans le corps, créant ainsi un certain nombre de désordres. Le remède à l'hystérie était donc les rapports sexuels, parce que cela aiderait les femmes à se calmer, surtout si elles tombaient enceintes. Et si la sexualité conjugale ne soignait pas l'hystérie, il restait les lavements à l'eau froide en dernier recours. Dans l'esprit de Briquet, l'hystérie reste une maladie de femme, même s'il commence à en avoir une vision plus complexe. Grâce au soutien de Pierre Rayer, le jeune Charcot intègre dès 1851 la Société de biologie. À l'époque, les sociétés savantes sont des réseaux de scientifiques. Ceux-ci font avancer la recherche en rivalisant les uns avec les autres, mais les membres se font aussi la courte échelle pour accéder aux postes de prestige. Charcot y fréquente toutes les étoiles montantes de la médecine moderne. Jean-Martin Charcot est un homme plutôt timide, mais il montre très vite une grande ambition dans ses choix de carrière et dans la sélection de son entourage. En 1852, il entre à la Société anatomique de Paris. Il travaille alors au service des femmes et des vieillards de la Salpêtrière. Il choisit donc un sujet de thèse en gériatrie. Ses recherches portent sur la goutte et les maladies inflammatoires. Sa soutenance est un succès. Il reçoit la mention « extrêmement satisfaisant » suivie d'un prix pour le lien établi entre la goutte et les rhumatismes inflammatoires. À 27 ans, Jean-Martin Charcot est un médecin prometteur. Il commence directement sa carrière comme chef de clinique, mais il n'est pas à plein temps à l'hôpital. En parallèle, Charcot établit son cabinet privé près du Faubourg Poissonnière où il a grandi. Le quartier est alors assez populaire et hétéroclite. Il y reçoit généralement les après-midi. Grâce à Pierre Rayer, il se forme une patientèle de banquiers et de ministres. La bonne société se presse chez le docteur Charcot qui devient le médecin du grand monde. Il s'enrichit considérablement à coups de prescriptions de laudanum et de bromure, des sédatifs en vogue. Si les calmants ne sont pas suffisants, il envoie ses patients en mal de repos en cure thermale. La mode des bains est sur le point de commencer. Quatre ans plus tard, en 1856, il réussit le concours des médecins des hôpitaux qui lui permet de prendre un poste à la Salpêtrière. Son premier travail n'a rien de bien grisant. Il trie les malades pour les envoyer dans les bons services ou assure des remplacements. Mais il profite de cette fonction peu chronophage pour écrire des articles médicaux. Pour être reconnu par ses pairs, il est nécessaire de rendre ses recherches publiques. Vers la fin des années 1850, Charcot, toujours dans l'entourage de Rayet désormais proche de Napoléon III, fréquente la fine fleur des intellectuels parisiens et donne de nombreuses conférences. Son ambition est maintenant de passer l'agrégation de médecine pour enseigner. Mais Charcot n'est pas le genre de médecin qui excelle dans un cadre donné. L'agrégation est un exercice convenu qui ne laisse aucune place à ses intuitions novatrices. Il est admis au second essai, sans doute parce que Rayet a soutenu son poulain auprès du jury. Charcot peut enfin donner des cours d'anatomie pathologique à l'école de médecine de Paris. Il enseigne notamment ses découvertes sur la maladie de Parkinson et sur la sclérose en plaques. Il expose à ses élèves le cas de son cobaye préféré. Il s'agit d'une de ses anciennes domestiques atteinte de la sclérose en plaques qu'il a fait interner à la Salpêtrière pour suivre l'évolution de sa maladie. En disséquant cette femme et ses patients après leur mort, il remarque des taches grisâtres dans leur cerveau. Il établit alors le lien entre les symptômes de Parkinson ou de la sclérose en plaques et ses atteintes neuronales. Cette approche dite anatomopathologique est une véritable révolution médicale. Son sens de la pédagogie plaît beaucoup à ses élèves. Grâce à son talent pour le dessin, il exécute des planches anatomiques et utilise les craies de couleur sur son tableau noir pour faire des schémas. À l'époque, cette façon d'enseigner relève du génie. En 1861, Charcot se voit proposer un nouveau poste de chef de service à la Salpêtrière. Il se retrouve à la tête d'un vaste département de 500 lits où s'entassent des indigents malades, de grands infirmes et des patients incurables, ce qui inclut les personnes souffrant de troubles mentaux. C'est à ce moment qu'il commence à réfléchir à une méthode scientifique pour cataloguer toutes les maladies auxquelles il a affaire, puisqu'il se trouve, de son propre aveu, dans un musée de pathologies vivantes. Charcot ne vit que pour le travail, mais à 39 ans, il commence à devenir un vieux garçon. Les injonctions sociales commencent à peser sur lui. Un homme véritable est censé se marier et fonder une famille. Lui, qui s'intéresse si peu aux femmes, se décide à courtiser une jeune veuve de 10 ans, sa cadette. Victoire Augustine Durvis est richissime car elle est l'héritière d'une maison de couture prisée par la bonne société parisienne. Une fois mariée, le couple s'installe dans le quartier très bourgeois de la Chaussée d'Antin, près du Nouvel Opéra de Paris. En parfaite maîtresse de maison, Madame Charcot reçoit la bonne société et veille à développer le réseau de son époux lors de dîners. Libérée des contingences domestiques, Charcot peut consacrer tout son temps à la création de la neurologie, l'étude clinique du système nerveux. Il s'inscrit dans une démarche positiviste. Les connaissances doivent s'appuyer sur les faits. Dans les années 1870, la renommée scientifique de Charcot a déjà dépassé les frontières françaises. Riche et célèbre, il déménage avec sa femme qui lui a donné deux enfants à l'hôtel de Chimay, dans le 6e arrondissement de Paris. Ironie du sort, le bâtiment deviendra 12 ans plus tard l'école des Beaux-Arts, après avoir abrité le médecin qui avait songé à devenir artiste. Charcot s'est maintenant mis en tête de trouver les traces de l'hystérie dans le cerveau de ses malades. Mais lorsqu'il les dissèque, il ne trouve rien, ni taches, ni lésions dans leur boîte crânienne. L'hystérie est une maladie qui échappe à l'anatomopathologie. Sa rencontre avec une jeune fille de 14 ans, Augustine Glaise, va lui permettre de changer sa vision de cette maladie. Grâce à elle, il va faire une découverte inattendue. Pour connaître la suite de ce récit consacré à Jean-Martin Charcot, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.